France Inter, le 18-20.
Hier encore, un homme dont on ne sait pas grand-chose, à vrai dire, a tué deux femmes à Marseille au couteau. Depuis ce matin, s'est ouvert le procès du frère de Mohamed Merah. Et dans chacune de ces situations, à chaque fois, on pose la question de la radicalisation des jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, qui s'en prennent à nous, et aussi de leur déradicalisation, même si le terme, je vous l'accorde, n'est pas très joli. Il semble qu'on aille d'échec en échec. En tout cas, les idées des centres fermés, de zones spéciales en prison, rien de tout ça n'a semblé vraiment efficace, quand chez certains de nos voisins, on remet à l'école des jeunes rentrés de Syrie. Alors, est-ce qu'on se trompe totalement dans notre approche? Est-ce qu'on se trompe de questions? Est-ce que du coup les réponses ne sont pas les bonnes? Est-ce qu'on ne sait pas parler aux jeunes le plus souvent, encore une fois, qui sont en voie de radicalisation? C'est le thème du Téléphone Sonne ce soir et c'est à vous de jouer.
Fabienne Sintès. Le Téléphone Sonne.
Et c'est Slimane le premier qui nous appelle au 01 45 24 7000. Slimane, bonsoir, soyez le bienvenu sur Inter, on vous écoute.
Oui, bonsoir, bonjour, bonsoir à tout le monde, bonsoir au docteur Nathan. Oui, je voulais poser la question suivante. La déradicalisation n'est-elle pas un écran de fumée pour cacher la puissance des pouvoirs publics face à toute l'idéologie mortifère qui est présente en France et dans le monde, orchestrée par l'Arabie Saoudite et toutes les milliards qu'ils dépensent chaque année? Que pouvons-nous faire face à ça?
D'accord, eh ben, on a compris votre question Slimane, merci beaucoup. Et pour vous répondre, donc, vous l'avez un peu évoqué Slimane, Toby Nathan est avec nous dans le studio, professeur de psychologie à Paris 8, auteur des âmes errantes, ça sortira le 4 octobre aux éditions L'Iconoclaste. Vous êtes ce qu'on appelle un ethnopsychiatre, ça veut dire que vous travaillez sur les origines, sur les croyances, sur les traditions des patients que vous avez en face de vous pour essayer de comprendre leur parcours. Et vous avez vu ces trois dernières années dans l'anonymat de votre cabinet, des dizaines de jeunes en voie de radicalisation. C'est ce que vous racontez dans votre livre et cette Absolument. Expérience nous sera évidemment utile. Merci d'être ici. Hugo Micheron est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant au sein de la chaire d'excellence Moyen-Orient à l'ENS et puis Corinne Audouin, évidemment, journaliste enquête et justice à France Inter. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Slimane Toby Nathan qui dit « Mais toute cette histoire de radicalisation sert surtout à cacher l'impuissance de nos pouvoirs publics ?» C'est une question qui revient souvent.
Alors, écoutez...
Grande fumée.
Un écran de fumée, il a dit. Il parlait de la déradicalisation, que c'est un écran de fumée. Écoutez, oui, je veux dire, c'est pas les pouvoirs publics. On ne sait pas bien parler de ça. Mais quand il dit qu'on n'y peut rien, l'impuissance des pouvoirs publics, je sais pas très bien de qui il parle. Nous, en tout cas, en clinique, on travaille en profondeur avec des familles sur un temps long et toujours de manière préventive avant que les choses ne se passent. Donc il s'agit pas de déradicalisation, il s'agit de jeunes qui sont pris dans un courant idéologique et on essaye de travailler en amont. Et enfin, on ne travaille que en amont, on fait de la prévention. Et dans ce cas-là, dans à peu près tous les cas, chaque fois que le jeune s'investit dans une relation avec nous, à chaque fois, ça fonctionne, je veux dire. Donc,
à chaque fois, ça fonctionne. Ça veut dire que vous avez le sentiment, à chaque fois que vous l'avez sorti de, comment on appelle ça, de l'emprise dans laquelle il est.
Non, c'est-à-dire qu'il a rejoint le monde commun, on va dire. Et ça veut pas dire qu'il a renoncé à l'islam. Parfois, il renonce, parfois, il renonce pas. Mais c'est pas la question.
C'est pas l'islam qu'il faut renoncer, c'est à la violence.
C'est pas la question. Ben oui. Et donc, il a rejoint ses semblables. Il a repris le cours de ses activités dans la vie, dans notre vie commune. Il nous a rejoint. Parce que moi, ma position, c'est que ce sont nos enfants, ce sont nos gamins. On va pas les laisser partir ailleurs. On veut les récupérer. Oh. Et donc, il faut les récupérer avant qu'ils n'aient commis des actes à partir desquels on ne pourra plus aller les chercher.
Et avant de donner la parole à Hugo Micheron, ça m'interpelle ce que vous dites quand même, Toby Nathan. Est-ce que ça veut dire que si on ne les prend pas en amont, pas avant, c'est presque trop tard? Je vous entends, j'entends un peu ça
pas.
En creux.
Moi,
en
je
ne
sais pas, j'ai travaillé que dans des situations de prévention. J'ai vu quelques personnes dans des situations d'expertise psychologique quand ils étaient incarcérés. J'ai vu quelques personnes. Ça me paraît beaucoup plus difficile une fois que les choses se sont passées, une fois que les avocats ont argumenté les discours, une fois que ils ont un discours qui est déjà préparé pour une défense juridique en face de jurés et de magistrats, etc. À ce moment-là, c'est très très difficile. La souplesse du fonctionnement psychique n'est plus la même, quoi. Donc il faut prendre les choses avant.
Hugo Micheron, je sais que vous détestez le terme de déradicalisation, mais vous avez raison, parce qu'en fait, c'est un terme qu'on a inventé quasiment pour l'occasion. C'est toujours un peu compliqué. Les réponses que nous avons, est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont appropriées? Est-ce qu'on a vraiment des réponses, en fait, en dehors des initiatives comme celle de Toby Nathan?
Alors, je ne déteste pas le terme déradicalisation en tant que tel. C'est simplement qu'il me semble désigner une masse informe qu'on n'arrive pas à saisir. Et pour cause, c'est le corollaire du terme de radicalisation. Et l'un des écueils, je crois, et ça fait écho à la question de l'auditeur à l'instant, c'est de savoir ce dont on parle, en fait. La radicalisation, il existe à l'heure actuelle presque autant de définitions que d'individus qui utilisent ce terme. Donc, d'un point de vue scientifique, on n'a pas un concept là sur lequel on peut établir ensuite tout un raisonnement. Et l'un des problèmes que rencontrent les pouvoirs publics, c'est justement de pouvoir définir ce à quoi on fait face. Vous venez d'évoquer la question du non-passage à la violence. Mmh. Alors, est-ce que c'est ça, finalement, ce qu'on veut prévenir, c'est-à-dire les attentats? Mmh. On veut, peu importe à la limite ce que pensent les individus, à partir du moment où ils passent pas à la violence, il n'y a pas de problème. Ou bien, est-ce qu'on veut prévenir un corpus idéologique qui fait rupture avec la société et qui pose un certain nombre de problèmes pour le lien social dans les quartiers et jusqu'au cœur de Paris? Est-ce que c'est ça aussi la problématique? Et cette question me semble absolument pas émerger avec la question de radicalisation. Et par ailleurs, pour terminer, la question des radicalisations laisse sous-entendre qu'on aurait des outils infaillibles, presque une méthode scientifique à appliquer qui permettrait de faire marche arrière, en fait, comme si un individu rentrerait dans un processus qu'on pourrait réverbérer. Et en ce sens-là, il me semble un peu illusoire.
Eh bien, et Toby Nathan pourra vous expliquer que c'est probablement pas si simple. Et il y a un écho à ce que vous venez de dire avec la question de Patrick. Bonsoir Patrick.
Bonsoir
et on vous écoute.
Merci de prendre mon appel. Je m'interroge sur l'utilisation du terme même de radicalisation. Être radical, c'est attaquer les problèmes en les prenant par la racine, ce qui est souvent une très bonne solution, mais ce n'est pas nécessairement être violent. Nous avions un mot en français, depuis Voltaire et le siècle des Lumières, pour dire cela, nous parlions de fanatisme. Ces terroristes sont fanatisés. Et l'utilisation du terme de radicalisation ou de radicalité a quand même l'inconvénient de faire un amalgame avec des gens qui ont une pensée radicale, mais qui ne sont pas violents et qui souhaitent simplement remédier à certains maux du système en prenant les choses à la racine. Voilà, je vous remercie.
Et je vous remercie beaucoup pour votre question, Patrick Toby Nathan. Est-ce qu'on pourrait remplacer radicalisation par fanatisme?
Écoutez, c'est un peu le même sens, hein. Parce que radicalisation, il a raison. Radical, quelqu'un qui est radical, c'est quelqu'un qui prend les choses par la racine. Il cite Karl Marx, hein. Mm-hmm. C'est-à-dire, être radical, disait Marx, c'est prendre les choses par la racine. Mais Marx a rajouté, la racine de l'homme, c'est l'homme. Dans le cas de ces gamins que j'ai vus, la racine de l'homme, c'est pas l'homme. La racine de l'homme, c'est Dieu. Mmh. Et donc là, les choses se compliquent. Et là, ça se rapproche de fanatique, parce que l'étymologie de fanatique, c'est le fana, c'est-à-dire l'endroit du sanctuaire qui est tout proche du tombeau du saint. En fait, c'est ça le fana chez les Romains. Donc fanatique, ça veut dire celui qui est tout proche du noyau,
Dire, mais il y a comme une idée de non-retour dans le fanatisme.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est proche du noyau, quoi. Et je pense que dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de jeunes gens qui disent ce que vous nous avez enseigné, ce que vous nous avez appris à partir du noyau, nous le remettons en cause depuis les racines, depuis le noyau des choses. Et fanatique ou radical, renvoient tous les deux à cette même idée. Donc ce sont des jeunes gens qui ont des préoccupations philosophiques, en fait, hein, philosophiques et politiques.
C'est ce que vous dites. Vous dites dans votre livre qu'ils sont avides de sens et de philosophie fondamentale. Mais ça veut dire qu'ils vont chercher très loin.
C'est ça qu'on appelle la métaphysique, c'est la philosophie fondamentale.
Mais
c'est
est-ce que ça veut dire aussi que du coup, Hugo Micheron et Toby Nathan, bien sûr, vous pourrez répondre, qu'on ne sait pas leur parler? Parce qu'on ne leur tient pas ce langage-là, en fait. Le langage qu'on leur tient est complètement différent.
Alors, il y a plusieurs choses, effectivement, en ce qui concerne les djihadistes, pour en avoir rencontré un certain nombre en détention. Ce qui m'a énormément frappé, c'est la facilité avec laquelle eux viennent sur notre terrain, sur notre le terrain de la citoyenneté, sur la capacité à débattre de la République, de ses codes, de ses valeurs. Et la grande difficulté qu'a l'administration, qu'elle soit pénitentiaire ou bien les intervenants extérieurs, à venir sur leur terrain, à leur parler de ce à quoi ils croient. Et il se trouve, de ce point de vue-là, qu'ils sont assez clairs. Eux, ils placent le djihadisme avec une conception qui est évidemment très, très orientée, avec une dimension militante qui est extrêmement forte, comme étant la négation absolue de la société séculaire et la société ouverte, républicaine, et notamment de toutes les valeurs qu'elle incarne et qui décline, la laïcité, etc. Donc à partir de là, il y a un corpus idéologique qui est très costaud, et on peut aller sur ce terrain-là. Par ailleurs, ils ne se privent pas de diffuser de la propagande à très grande échelle sur Internet. Et ça, c'est à portée de clic de n'importe qui. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que n'importe quel adolescent qui tombe dedans passe des heures à consulter du contenu djihadiste, alors que nous, qui cherchons à comprendre comment il fonctionne, on n'y va pas. Ou alors, on l'interprète mal. Et donc, on se retrouve à avoir des discussions sur comment il faut les appeler, alors qu'eux, finalement, diffusent du contenu massif et à portée.
Mais Toby Nathan, est-ce qu'on arrive, j'ai envie de dire, à les convaincre, c'est pas le mot que je voulais employer, mais on se rend bien compte, et vous le dites, et ça fait écho à ce que vient de dire Hugo Micheron, si on essaye de faire preuve de plus de compréhension, si on essaye de faire preuve de plus de compassion, ça ne marche pas forcément. Ah ben non. Si on essaye de faire preuve de plus de droit, de plus d'autorité, ça ne marche pas non plus. Donc la voie médiane, pardon,
mais... Non, c'est pas médiane,
la voie,
une troisième voie
voilà,
possible. Hein.
La voie...
J'en sais rien, quelle est la voie, personne
j'entends.
Ne sait quelle est la voie. Mais en tout cas, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on a dit, il faut les comprendre, il faut les plaindre, ce sont des victimes. Et là, vous avez des réactions pires encore. Et il y a eu une autre réaction qui est très répandue dans les services publics et surtout chez les journalistes d'ailleurs, hein, qui est, il faut plus de lois, plus d'interventions, ils ont rompu le pacte républicain, etc. Et donc, plus de juges, plus de punitions. Et là, évidemment, on voit très bien ce que ça donne. Et donc, il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est ils nous posent des questions fondamentales. On va discuter de ces questions fondamentales avec eux. Et ces questions fondamentales concernent des choses qui sont super importantes. C'est-à-dire, la France n'est pas assez ouverte, n'est pas assez internationale. Et donc, comment est-ce qu'on ouvre? Eh bien, c'est que on intègre à l'intérieur des questions qu'il y a à l'extérieur. Ce sont des gamins qui s'intéressent à la géopolitique. Ils sont en train de regarder ce qui se passe à Raqqa, en Afghanistan, en Palestine. Ils ne sont pas en train de regarder ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Ils sont en train de regarder le monde à l'extérieur. Et nous, on leur répond, la France, je pense que là, on est à côté de la question qu'ils sont en train de poser. C'est un exemple parmi les questions qu'ils posent.
Corinne Audouin.
Comme vous êtes psychologue et spécialiste d'ethnopsychiatrie, on a envie forcément de poser la question de la folie. On entend à chaque fois qu'il y a un attentat, c'est un fou, on va chercher les déséquilibres. Il y en a souvent chez les gens que vous avez pu voir, vous, ou vous, Hugo Micheron, dans les retours de Syrie. Il y a parfois une folie personnelle qui va rencontrer cette idéologie totalitaire et fascinante. Mais la composante, ils ne sont ni fous ni ignorants. Vous êtes d'accord, je crois, tous les deux là-dessus.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a autant de fous. Parmi ceux que j'ai vus, moi j'en ai vu 60. Hein. Donc, c'est pas... Je ne vais pas faire des statistiques sur 60.
Et combien de fois, soit dit en passant, combien de fois on les voit, ces jeunes gens, quand on travaille avec
moi,
eux comme
il y a
vous.
Certains, je les vois depuis 3 ans. Certains, je les ai vus 60 fois, 70
D'accord.
fois. Donc, je les connais très, très bien. Quoi. On a eu des relations très approfondies ensemble. Hein. Alors, sur les gens que j'ai vus, il y a très, très peu de problèmes psychiatriques. Hein. Donc ça... C'est une vraie question, parce que ce que j'entends partout, c'est s'ils sont passés de l'autre côté, c'est qu'ils sont cinglés. C'est pas le cas, c'est pas le cas en tout cas de ceux que j'ai vus. S'ils sont passés de l'autre côté, c'est parce que ils ont des raisons parfois fondamentales, mais en tout cas pas des raisons pathologiques. Alors de temps en temps, bien sûr, il y a des gens qui ont perdu la boule, mais même ceux qui ont perdu la boule et qui... passent de l'autre côté, ils ne choisissent pas l'idéologie au hasard. Ils choisissent une idéologie qui leur est proposée. Donc, ce qui est la chose importante, c'est la présence de cette idéologie. Ce n'est pas le fait qu'ils soient fous ou pas.
Mais donc pas victime, mais proie, en gros, grosso modo.
Il y a plusieurs choses. Enfin, c'est vrai que, et votre question est très juste, l'approche psychopathologique a dominé pendant très longtemps dans les débats, parce que c'est très rassurant, finalement, de se dire que des gens qui se mettent à tuer n'importe qui au milieu de la rue ne peuvent être que fous, ça sonne comme l'évidence. En réalité...
C'est que ça nous rassure aussi, Hugo Michaud, pardon, mais je pense que ça nous rassure, bien sûr.
Mais absolument.
C'est tellement plus simple si le type est complètement fou.
Et donc, quelque part, on a résolu le problème. On n'a pas à le comprendre, c'est résolu, ce sont des fous, circuler, il n'y a rien à voir. En fait, la majorité des passages à l'acte peuvent être le fait de déséquilibrer, mais la majorité du djihadisme n'est pas composée de déséquilibrés. Moi, dans mes échantillons, j'ai rencontré un cas schizophrène, voilà, psychotique pur, il n'y a pas de problème.
Combien de cas ?
Un seul, sur 80.
Ouais, bah c'est ça.
Le reste, c'était des individus, alors plus ou moins articulés intellectuellement, je vous l'accorde, avec parmi eux quand même des individus qui savent réfléchir et qui sont assez structurés, d'autres beaucoup plus déséquilibrés, mais dans l'ensemble, un rationnel. Et donc, à partir de là, ça pose la question de comment on travaille pour comprendre. Mmh. Et là, on est maintenant, donc 5 ans après les attentats de Mohamed Merah, et on n'a toujours pas posé le diagnostic. Vous évoquiez tout à l'heure les autres pays européens, ils n'ont pas posé non plus le diagnostic. Et la recherche, à l'heure actuelle, n'a pas encore posé ce diagnostic. D'où l'intérêt de faire du terrain, d'aller d'approcher les acteurs et d'essayer de mettre ça en perspective.
On est encore dans la phase de compréhension, en fait.
De compréhension et d'arriver à comprendre ce dont, en fait, le djihadisme est le symptôme pour le reste de la société française, voyez, et donc pas réduire ces débats à des approches psychologisantes qui sont très utiles à bien des égards, mais qui ne sont pas une seule réponse à aucun moment unique.
Je voudrais vous soumettre la question de Jamel qui nous écrit sur le point FR de France Inter. Je suis à la PJJ, donc à la police judiciaire. Je m'occupe de jeunes radicalisés dans cette institution.
C'est la protection judiciaire de la jeunesse et pas police.
Autant pour moi.
La PJJ, c'est la police judiciaire, qui habite à Nancy.
Qui habite à Nancy. Il s'occupe donc de jeunes radicalisés dans cette institution. Le personnel n'est pas formé sur ce phénomène. Qu'en est-il de la formation du personnel éducatif? Et Hugo Michron, elle est hyper importante, la question de Jamel, parce que moi, je vous entends là nous parler des jeunes que vous rencontrez, mais il faut être sacrément armé pour pouvoir leur parler, pour pouvoir leur répondre. Il faut savoir.
Alors, c'est une très bonne question, parce que la formation, pour participer à plusieurs formations depuis plusieurs années, je sais ce qu'il en est, et notamment du personnel de la PJJ. À l'heure actuelle, déjà, il faut dire qu'il y a un travail colossal qui est fait par l'État pour former à tous les niveaux, et y compris à ce premier échelon qui est l'un des plus importants, qui est celui des éducateurs dans les quartiers, corps auquel appartient Jamel, à la PJJ. Mmh. Donc là, c'est absolument central et il y a un effort qui est fait. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les éducateurs, les psychologues, les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain auprès de ces jeunes, ils n'ont pas à changer leur métier. Ils savent faire leur métier. Par contre, il faut qu'ils aient une boîte à outils en plus pour pouvoir aller sur le terrain du jeune. Et ça c'est, effectivement, c'est quelque chose qui se passe à travers, entre autres, des formations. Il ne faut pas limiter à ça. Mais à l'heure actuelle, on a un déficit dans la capacité des formateurs. Et c'est bien là où on a un problème de production de connaissances aussi d'en haut, c'est-à-dire dans la recherche et au-delà, pour pouvoir transmettre ça aux gens de terrain qui font déjà un métier qu'ils connaissent très bien.
Il n'y a pas assez d'universitaires qui travaillent là-dessus. Pourquoi ça ne les intéresse pas? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de bourse, l'université ne valorise pas les chercheurs qui travaillent là-dessus?
Rien de tout ça, je pense. Par contre, c'est un sujet, comme vous venez de le mentionner, qui est très délicat à approcher. Et je crois qu'on ne peut pas travailler sur ce sujet sans faire du terrain. Le terrain, ça se passe dans les quartiers, ça se passe dans les prisons, ça se passe également sur Internet et si possible au Moyen-Orient. Il faut, si possible, maîtriser la langue arabe. Enfin, ça nécessite un engagement qui... Et puis, voilà, on se frotte quand même aux épines du cactus. Donc, il faut à un moment donné aussi assumer ça. Et ça, c'est très délicat. Mais je pense que le mouvement est en route.
Comme vous dites, il faut avoir la peau dure. Vous vouliez intervenir, Toby Nathan, je vous entendais.
Non,
je vous voyais réagir.
Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, avec ce que dit Hugo. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des formations qui ont été mises en œuvre depuis longtemps, hein, depuis le début en fait. Hein. Et c'est vrai qu'on est dans un travail de recherche et c'est de la recherche que naît l'enseignement. Mais en même temps, il y a aussi des vieux tics, des vieilles habitudes de pensée, et tout particulièrement chez les travailleurs sociaux. Et c'est une façon de voir qui est à partir de la personne. On voit des individus et on fait de la psychologie, on essaye de comprendre les individus. Et là, vous avez un mouvement, ce qui est un mouvement qui dépasse les individus, qui est de l'idéologie, qui est de la culture, qui est de la religion, qui est des choses qui ne sont pas habituées à saisir.
Alors justement, donc, pas habituées à saisir, pardon de vous interrompre. Toby Nathan, je voudrais qu'on écoute Yolande qui nous a appelé. Bonsoir Yolande.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute.
Intervenir. Je suis du Havre. Je souhaitais intervenir. Je suis infirmière psychiatrique depuis un peu plus de 30 ans. J'ai un petit peu d'expérience. Et en fait, je voulais souligner l'appel de Monsieur Coulon, qui était donc ministre de l'Intérieur, qui demandait à ce que les psychiatres collaborent au signalement des personnes radicalisées. Et je souhaiterais en particulier pointer du doigt que dans la mesure où les hôpitaux, tous les hôpitaux au niveau national, souffrent de manque de moyens cruciaux, ne peuvent déjà pas soigner leurs névrosés types, je dirais, pour faire un raccourci. Donc, que faire en plus ? On ne peut pas soigner les gens au quotidien. C'est une véritable catastrophe. Alors, la dernière mesure du gouvernement, c'est d'augmenter le forfait hospitalier. Formidable. Mais que faire pour les hôpitaux ? Rien. Et en termes de formation, en 30 ans de carrière, je suis dans le secteur public, hein, je n'ai eu que des formations subalternes. Des formations qui ont vraiment à faire avec mon travail au quotidien et qui m'élèvent un petit peu dans mon travail, ça n'a été que 20-25% de ce que j'ai pu connaître. Et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose de... J'entendais sur les formations tout à l'heure, mais on est à milieu. En plus, l'abolition du diplôme d'infirmier psy en 92 a fait que des infirmiers diplômés d'État en soins généraux sont rentrés dans les services et n'ont aucune connaissance intime de la relation à l'autre. Alors, je leur jette pas la pierre, hein, ils ont pas eu la formation.
Mais on a compris, pardonnez-moi Yolande, que ce que vous disiez effectivement sur le fait que vous ne vous sentez pas armé, faute de formation et aussi faute de moyens. Hugo Micheron, j'imagine qu'on peut entendre ce que dit Yolande.
Oui, parce qu'en fait, un autre biais du débat sur le djihadisme, c'est de croire qu'en fait, on ne parle que d'attentats. Alors qu'en réalité, les attentats sont un moyen terroriste aux mains des djihadistes pour terroriser, pour sidérer, c'est la fonction. Mais ce n'est pas du tout la fin. La fin, c'est de polariser la société et de la faire imploser, et si possible, d'étendre le pouvoir des djihadistes, d'exporter les terres de conflits en Europe pour pouvoir ressortir une entité. Une entité territoriale. C'était tout le but de leur entreprise en Syrie et en Irak, de profiter du chaos syrien pour faire ça. Et donc du coup, on ne comprend pas, en dehors des périodes d'attentats, ce qui se joue en fait en France. Et une partie de ce qui se joue, c'est cette diffusion idéologique. Je vais être très concret. Un des idéologues rencontrés en détention en France explique, à la limite, nous, ses propos, on est la génération sacrifiée, on va retourner en prison, on va faire des allers-retours toutes nos vies. Et dit-il, nous on travaille sur l'éducation, et il a employé le mot d'éducation, pour préparer la future génération, pour que le rapport de force, m'a-t-il dit, soit favorable face à l'État quand ils auront notre âge. Et donc, à partir de là, on comprend bien, il propose un projet qui est mortifère, qui est absolument abominable évidemment, mais qui se pense sur 20 ou 25 ans. Et il pose la question de l'éducation, donc directement on décale le débat des forces de sécurité vers l'éducation nationale et vers les différents services intervenant, entre autres dans les quartiers difficiles ou marginalisés. Et je crois que c'est très important de prendre ça en compte sur comment un pays doit se mettre au niveau finalement de la menace qui n'est pas que terroriste. Et ça, c'est le monde qui a changé depuis, je crois, les attentats de Merah ou de Charlie Hebdo.
Je voulais demander à Toby Nathan, effectivement, cet appel de Gérard Collomb au psychiatre à collaborer, à peut-être signaler des patients qui présenteraient des signes de radicalisation. Ça a été accueilli, comme l'a dit notre auditrice, de manière un petit peu, pas forcément très bien par le milieu psychiatrique. Vous en pensez quoi ? Il faut collaborer avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement ?
Ah, bien sûr. Moi, je pense que je vais pas parler au nom des psychiatres. D'abord, je suis pas psychiatre.
Je suis pas psychiatre.
Et ensuite, ils ont leurs obligations. Il se passe quelque chose qui s'est passé un nombre incalculable de fois en psychiatrie. Et je l'ai vu arriver plusieurs fois, étant donné mon âge, hein. J'ai vu ça arriver plusieurs fois. Chaque fois qu'il y a un nouveau désordre, on pose la question aux psychiatres, mais en même temps il y a des gens qui se spécialisent tout de suite. Quand la drogue est arrivée et que ça a posé des problèmes aux psychiatres, on a posé exactement la même question aux psychiatres. On a dit vous devez vous occuper des drogués, et les psychiatres ont dit mais on n'a pas le temps. Et puis au bout d'un moment, c'est rentré dans la pratique parce que il y a eu quelques points de recherche un peu spécialisés comme ça et qui ont démarré la machine et ensuite ça s'est rentré dans le corps de la psychiatrie générale. Il se passe exactement la même chose aujourd'hui. Il y a quelques lieux, à Paris, il y a 3 lieux qui reçoivent des personnes en voie de radicalisation qui commencent à se spécialiser, qui ont des choses à dire et puis il y a des idées qui émergent et puis ça va rejoindre.
Mais là c'était une question presque policière. C'était de dire, de oui, signaler
bien,
des gens.
Je sais bien.
L'éducation nationale, vous en avez parlé
comme Michelon, la psychiatrie. L'éducation nationale le fait.
Il faut signaler.
La plupart des signalements parviennent par les familles, en fait. Hein, c'est ça, la vérité.
C'est comme ça qu'elles arrivent vers vous,
Bien sûr. La plupart des signalements proviennent des familles. Et je vais vous dire même plus que ça, proviennent des mamans, en fait. Hein. Ce sont les mamans qui voient les choses, hein, qui voient les choses évoluer.
Mais d'ailleurs, pardonnez-moi, il n'y a pas souvent de pères dans les cas que vous citez. Rarement des pères. Il y en a quelques-uns, mais pas tout le temps.
La tarte à la crème. Il n'y a pas souvent de pères. Non, mais il n'y a pas souvent de pères dans la vie, hein. A fortiori dans les quartiers et a fortiori dans des situations un peu difficiles comme celle-là souvent. Donc il n'y a pas souvent de pères, c'est vrai, mais c'est pas tellement la question. C'est que les mamans sont très proche des situations. Elle voit les filles changer de vêtements, elle voit les garçons changer leurs habitudes, elle voit les fréquentations, elle s'inquiète, etc. Et ce sont les mamans qui bougent. Nous, on a fait dans le centre dans lequel je travaille, qui s'appelle le centre Georges Devreux, nous, on a fait un groupe de mamans. C'est-à-dire que on a réuni les mamans qui sont des mamans qui viennent de plein d'endroits différents et qui ont des enfants en voie de radicalisation comme ça et elles échangent parce que le problème vous savez c'est que elles se sentent fragiles à ce moment-là, elles se sentent parce que elles se font houspillées par leurs gamins qui leur disent que elles sont immorales, elles savent pas se comporter et à ce moment-là elles ont besoin d'être soutenues. Et c'est le début du boulot, c'est ça, c'est le soutien des mamans. Et donc quand elles se retrouvent ensemble, elles trouvent des trucs pour répondre aux gamins, pour dire dans ces cas-là, on leur répond ça, on leur fait ça, etc. Et elles se soutiennent mutuellement et ces groupes de mamans sont d'une efficacité extraordinaire pour l'évolution de leurs gamins et pour leur évolution à elles aussi, bien sûr.
Et c'est bien la différence du travail que vous faites, vous, par rapport à celui de Hugues Michelon, finalement, parce que vous pouvez encore récupérer, si je puis dire, le terme est peut-être un peu raide, mais récupérer ces gamins qui sont sur la voie de radicalisation. Vous, Hugues Michelon, j'ai presque envie de dire que c'est trop tard. Finalement, ces jeunes chez vous allez m'arrêter si je me trompe, sont plus un objet d'étude qu'un objet de vers quelque chose qui amènerait à... Est-ce qu'on peut dire le mot de guérison? Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faudrait employer, mais...
C'est vrai.
Ils sont pas malades.
Voilà, oui, c'est pour ça que j'entends bien.
Donc, oui. Je ne fais pas du tout le même travail que Dr Nathan, c'est-à-dire que moi j'essaye de comprendre, j'essaye de travailler à... Et donc pour ça, je fais du terrain. Et je ne cherche pas à les sortir à aucun moment donné, parce que je considère qu'il faut d'abord poser le diagnostic avant de trouver les réponses. Sinon, on part dans tous les sens. Et une des raisons pour lesquelles on en vient à parler de ça ce soir, c'est aussi parce qu'on a voulu tout de suite trouver des réponses. Et qu'on n'a pas cherché finalement à comprendre. Là, on se rend compte maintenant, avec la multiplication des attaques un peu partout dans le temps, dans l'espace, en Europe, etc., qu'il y a quelque chose qui nous dépasse en partie. Et donc, finalement, c'est favorable. Et par rapport à l'ensemble des acteurs sur ce terrain, on se rend compte qu'il y a une évolution colossale aussi. Quand je commençais mon terrain en 2014, avant les attentats de Charlie Hebdo, c'était impossible finalement d'avoir un échange avec un éducateur sur ces sujets. Maintenant, c'est eux qui viennent, qui m'écrivent des emails pour pouvoir échanger. Donc, ce travail, je pense, et c'est ma petite contribution, pleine de modestie, c'est-à-dire d'apporter ma pierre à la compréhension générale d'un phénomène.
Et je voudrais qu'on ait... Pardon, Tommy Nathan, allez-y.
Juste pour terminer la réponse à la question qui a été posée tout à l'heure sur la remarque de notre ministre de l'Intérieur. Au fond, ce qu'il disait, ce que j'ai compris qu'il disait, c'est qu'il est indispensable que les services de renseignement, la police, les psys, les éducateurs, que tous ces gens-là travaillent ensemble. Et ça, je suis d'accord avec lui. Le problème, c'est que le problème n'est pas résolu, quoi. On ne sait pas encore travailler ensemble. On n'a pas l'habitude de travailler ensemble.
Il y a beaucoup de méfiance, en plus.
Bien sûr. On n'a pas l'habitude de travailler ensemble. Mais je crois que, en tout cas, un des effets de cette vague radicale, c'est l'obligation qu'ont ces différents services de travailler ensemble, puisque au fond, on travaille à avoir une vie acceptable en France, quoi. Et donc, évidemment, que nous sommes tous intéressés à ça.
Patrick nous appelle au 01 45 24 7000. Bonsoir, Patrick.
Oui, bonsoir.
Et vous n'aimez qu'à moitié ce que vous entendez, vous avez parfaitement le droit. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, bah, je suis complètement stupéfait. C'est un très beau débat, hein. C'est un débat très intéressant, très intellectuel, empreint de psychologie, mais ces gens-là font la guerre et ils tuent quand même, ça fait déjà pas mal de personnes, quelques centaines de personnes. J'hallucine complètement. On oublie complètement l'arsenal répressif. On est dans le... Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est moi, ça me paraît, maintenant, ça commence à me paraître complètement délirant.
Patrick, on a entendu ce que vous disiez, et Hugo Micheron voulait intervenir et vous répondre, et je vous en prie, Hugo, allez-y.
Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, j'ai pas l'impression que on est dans la dénégation. Simplement, il est vrai, on essaye d'éviter un autre écueil, à mon sens, qui est celui de l'hystérisation du problème. Et l'arsenal répressif, en l'occurrence, ne marche que très moyennement. C'est-à-dire que tout le propos, en tout cas, que je tiens, c'est d'essayer d'expliquer que la réponse sécuritaire n'est qu'imparfaite parce qu'elle ne répond qu'à une partie du phénomène. Parce qu'il y a une autre partie en dehors des attentats qui se structure, notamment via le développement du salafisme, dans une rupture beaucoup plus large en valeur, une rupture symbolique avec le reste de la société. Et ça, c'est pas la seule réponse sécuritaire ne peut pas atteindre ces gens. Par ailleurs, si on considère le dispositif des unités dédiées qui se veut extrêmement répressif dans l'idée, c'est-à-dire de séparer les djihadistes des autres détenus en détention au sein des prisons, comme étant un beau progrès de l'arsenal répressif, on remarque à l'heure actuelle qu'il est assez défaillant.
Mais est-ce qu'on n'est pas en train de revenir en arrière, d'ailleurs ? Moi, j'avais cru comprendre qu'on avait plus ou moins arrêté d'ouvrir ce genre de choses, parce que c'était contre-productif.
En réalité, non. C'était simplement qu'il y avait 4 établissements désignés comme des unités dédiées, où les djihadistes étaient séparés, en principe en tout cas, du reste de la détention. Il y a eu un attentat, c'est-à-dire qu'un de ces djihadistes, le 4 septembre 2016, s'en est pris à deux de ses surveillants Bilal Taghi, dans la maison d'arrêt de Dony, celle du Val-d'Oise, suite à quoi, en fait, le dispositif a été revu. Et maintenant, il a été étendu. On parle maintenant de 27 établissements, mais à l'heure actuelle, on est sur une période d'expérimentation, on ne sait pas très bien où on va là-dessus. Donc la seule réponse sécuritaire ne suffit pas si on veut répondre à ce phénomène. C'est ça qu'il faut comprendre.
Pour compléter la réponse, il y a...
On prendra Patrick tout à l'heure au téléphone.
Il y a actuellement 485 détenus pour motif d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste dans les prisons françaises, dont 48 femmes. Il y en avait 220 en janvier 2016. Et par rapport à la réponse répressive, c'est une réponse de plus en plus répressive. C'est-à-dire, systématiquement, les gens aujourd'hui de retour de Syrie ou qui tentent de partir, il y a de moins en moins de retours, parce que c'est de plus en plus de rentrées, sont systématiquement placés en détention, notamment les jeunes femmes. C'était pas forcément le cas il y a un an, il y a deux. Donc il y a plutôt une réponse de plus en plus répressive et en même temps il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de ces gens en prison qui sont pour la plupart très jeunes. Certains vont sortir, ils vont sortir un jour de prison. Donc quel temps, comment on utilise ce temps de la détention, c'est ça la vraie question à laquelle travaille en ce moment l'administration pénitentiaire. Effectivement, il y a eu des expérimentations, c'est pas encore vraiment au point, mais il y a une grande question qui est l'évaluation des détenus et ensuite quelle prise en charge on fait pour chacun de ces détenus.
Patrick, est-ce que vous êtes réconcilié avec nous ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a répondu ou au moins partiellement en tout cas vos interrogations ?
J'espère que vous avez raison, mais j'en suis pas du tout sûr. Voilà.
Moi, je voudrais lui répondre.
Allez-y, Toby Nathan, bien sûr. Patrick, écoutez Toby Nathan.
Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens qui font la guerre. Et ceux-là, ils sont passés à l'acte. Ceux qui sont passés à l'acte, la réponse, elle est évidemment judiciaire. Et c'est ce que nous faisons, et nous sommes de plus en plus sévères, en fait, dans les réponses judiciaires. Mais moi, ceux dont je me suis occupé, c'est des gens qui ne sont pas passés à l'acte, dont on pense qu'une éventualité de passage à l'acte est possible. Donc si on travaille en amont, si on travaille dans la prévention, on va éviter que les choses ne se passent. Et là, c'est un autre type de travail. Le judiciaire, c'est pour après. l'intervention préventive, c'est pour avant, quoi.
Et Toby Nathan, moi j'ai une curiosité, est-ce qu'on la sent, cette fragilité, quand on a un jeune comme ça en face de toi, de soi? Est-ce qu'on sent que il y a effectivement un passage à l'acte possible qui est plus prégnant chez certains que chez d'autres? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez percevoir?
Je vois bien ce que vous voulez dire.
Quand un jeune arrive en face de vous, est-ce que vous vous dites, celui-là, il faut faire attention parce qu'effectivement, on n'est pas loin du passage à l'acte?
Oui, c'est-à-dire qu'il y en a qui se sont durcis beaucoup, qui ont un discours qui est sans aucune faille, qui considèrent que personne n'est un interlocuteur possible, et que là, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire, moi, j'aime bien discuter avec eux, même des choses qui, je sais pas, de l'unicité de Dieu, par exemple, je passais des heures à discuter de l'unicité de Dieu avec une jeune fille, par exemple, et ça, quand je peux faire ça, je pense que le travail est possible. Mais quand je sens que, de toute façon, je ne suis pas un interlocuteur en rien, et que il regarde au-delà de moi dans un espace que je ne perçois même pas, je me dis là, ouais, il y a danger, c'est vrai. Il y a certaines personnes, on se dit que elles sont un danger, oui.
Je voudrais qu'on écoute Catherine. Bonsoir Catherine, bienvenue sur Inter.
Merci, bonsoir, et merci d'avoir sélectionné ma question. Voilà, donc on a abordé toutes les questions auprès de la prévention, donc auprès des personnes sur la désensibilisation, la déradicalisation. Mais moi j'ai une question certainement très naïve, très pragmatique et technologique.
Parce vous en
que
prie.
Je vous demande, en quoi est-ce que les messages et les propagandes djihadistes peuvent encore passer sur l'étoile, sur la toile, sur Internet, etc., Facebook, etc., sans pouvoir être censurés à un moment donné? Donc c'est vraiment une question très technique pour laquelle j'ai besoin d'une réponse simple, parce que je ne suis pas une technicienne. Mais voilà, moi je me pose la question, en quoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, on ne peut pas censurer ces propagandes qui sont... ouverte à tous.
Catherine, merci beaucoup pour votre question. C'est une question qui revient souvent, qu'on a entendu à maintes reprises, y compris dans les X lois antiterroristes qui ont pu être faites. Effectivement, question, j'allais dire naïve, mais on a tous la même, en fait, de Catherine. Comment se fait-il qu'on puisse encore avoir autant de messages haineux sans ne pouvoir rien en faire sur Internet?
En fait, cette question n'est pas naïve, c'est la question. C'est la question, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, il y a un espace virtuel, ce qu'on appelle une djihadosphère, sur laquelle échangent des djihadistes. Alors, cet espace a été considérablement réduit depuis les attentats de Charlie Hebdo. Il y a eu un gros travail fait là-dessus, et une bonne partie du discours haineux djihadiste qu'on retrouvait sur Facebook a disparu. Les comptes sont régulièrement fermés, etc. Mais il y a encore un travail, à savoir à travailler avec ce qu'on appelle les GAFA, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc., pour réussir en fait à cerner ce discours et à l'éliminer. Mais le problème, tout le problème est là, c'est la frontière. Parce qu'une bonne partie du discours, par exemple salafiste, qui n'appelle pas au meurtre, etc., valide tous les présupposés du djihadisme. Et celui-ci, il n'est pas sanctionnable pénalement. Donc là, on a une difficulté. C'est pour ça qu'on parle aussi de discours de rupture sur où est-ce qu'on met la limite. C'est la question, évidemment, la question de sécurité et de liberté d'expression. Et il faut faire très attention sur cette zone grise, mais il faut en avoir conscience. Si vous regardez à l'heure actuelle ce qu'il en est lorsque vous tapez des questions relatives à l'islam sur l'internet francophone, vous allez à 90%, ce sont des résultats salafistes. Il y a un problème d'offre, là.
Corinne Audouin.
À 19h57, c'est un peu tard, mais ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on s'en sort? C'est quoi? C'est un défi de société, Toby Nathan?
Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Il faut proposer, il faut construire, il faut proposer, il faut produire de l'intelligence, et il faut produire des propositions qui sont aussi excitantes, aussi intéressantes, aussi héroïques, aussi aventurières que ce qui est proposé de l'autre côté. Sinon,
parce que le djihad fait rêver, en fait, ces jeunes-là.
Sinon, vous n'êtes pas concurrentiel.
Il y a cette phrase que vous avez dans votre livre, vous dites que ce qu'on leur dit, c'est « ton existence m'intéresse ».
Bah, exactement.
Et c'est fou de se dire qu'il suffit de leur dire ça.
C'est un grand mensonge.
Exactement, exactement. Et je peux vous dire que ces gamins, leur existence m'intéresse parce que ils sont multiples, en fait.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci Hugo Micheron d'avoir participé à ce téléphone sonne. Merci à vous, Toby Nathan. Je rappelle que Les âmes errantes, publié chez l'Iconoclaste, ça sort. On est le combien? On est le 2, donc c'est dans 2 jours.
Mercredi.
Ce sera le mercredi, le 4 octobre. Merci à tous.